On va continuer dans notre étude du petit prophète Michée, chapitre 6. Je vous invite à vous y tourner. Donc les petits prophètes, encore une fois, ils sont petits par la production de leurs écrits, pas par l'importance ou la non-importance de ce qu'ils déclarent. Mais c'est vrai que les écrits de Jérémie, Ézéchiel et Daniel sont beaucoup plus importants que les écrits des 12 petits prophètes. D'ailleurs, il n'est pas toujours très facile de les trouver dans la Bible. Ils arrivent juste avant le début du Nouveau Testament, avant Matthieu. Donc si vous arrivez dans le Nouveau Testament, revenez un peu en arrière. Et Michée, il est un peu au milieu des petits prophètes. Je crois que c'est le 6e petit prophète. Et on a vu qu'il était contemporain du grand prophète qui était Ésaïe. À cette époque-là, on le rappelle un peu à chaque fois, il y avait deux royaumes qui résultaient de la division du grand royaume de David et Salomon. Il y avait le royaume du nord avec la capitale de Samarie, qu'on appelait Israël, ou des fois Éphraïm, et puis le royaume du sud avec pour capitale Jérusalem, qu'on appelait souvent Juda, parce que c'était la principale des deux tribus, avec la tribu de Benjamin qui habitait et qui avait pour capitale donc Jérusalem. L'histoire du peuple juif, c'est une histoire qui veut illustrer ou qui illustre notre comportement. Nous pensons pas beaucoup à Dieu lorsque les choses vont bien. On pense que ça nous est dû, que les 30 glorieuses, c'est parce qu'il y avait le baby-boom, il y avait l'économie qui prospérait. Et puis quand les choses vont plus mal, à ce moment-là, on pense à se tourner vers Dieu. Des fois, on lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tant de mauvaises choses m'arrivent, tout en oubliant toutes les bonnes choses qu'il nous donne. C'est lui qui nous donne la vie et l'être. Si vous êtes ici aujourd'hui, si on peut communiquer, si on peut parler, si on peut se réjouir à l'idée d'une belle journée ensoleillée, d'un repas en commun, c'est parce que Dieu nous a créés, qu'il nous a donné la capacité d'avoir des relations, d'avoir des joies, des attentes. Donc Dieu est un Dieu merveilleux, mais nous avons tendance à l'oublier. Et c'était le cas de ces deux royaumes qui n'auraient pas dû être divisés pour commencer, mais qui se retrouvaient à s'éloigner de Dieu. Et Dieu, quand nous nous éloignons de lui, parce que c'est un Père qui nous aime, il nous corrige. Un peu lorsque vos enfants sont désobéissants, vous les corrigez, non pas pour leur infliger une souffrance physique ou morale qui vous fait plaisir, au contraire, ça vous déchire le cœur, mais vous voulez que pour leur bien, qu'ils soient corrigés. Et de la même façon, Dieu corrige son peuple. Et lorsqu'on n'est plus corrigé par Dieu, c'est là qu'on a des raisons de s'inquiéter. Dieu est un Dieu qui protège, qui aime, qui nous reprend, mais en même temps, c'est un Dieu qui nous laisse notre libre arbitre. Dieu veut que nous soyons amoureux de lui, il veut que nous l'aimions, mais il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Il ne veut pas nous forcer à lui obéir. Je dis aimer et obéir, c'est la même chose. Des fois, on pense qu'aimer quelqu'un, c'est avoir des sentiments, une effusion de sentiments dans le cœur, avoir des étoiles dans les yeux. C'est très bien dans ce cas, ça se passe. Mais vraiment, aimer quelqu'un, c'est lui obéir. Et notamment pour Dieu, c'est un thème qui revient dans l'évangile de Jean. Celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui dit « Alléluia !» C'est celui qui fait ma volonté, c'est celui qui m'obéit. Et lorsque nous n'aimons pas Dieu en faisant sa volonté, il nous reprend, mais il arrive un moment où il dit, je vais vous laisser à votre propre péché. Et lorsque le silence de Dieu prévaut sur les reproches de Dieu, on a tout lieu de s'inquiéter. C'est ce que disait Tonio, le reproche de Dieu, le silence de Dieu est plus terrible que le reproche de Dieu. Parce que le silence de Dieu, ça veut dire qu'il nous laisse partir à la dérive dans nos péchés. Et il est possible que ce soit sa dernière attitude avec nous. Même s'il nous aime, il ne peut pas nous forcer, il ne peut pas nous casser la tête pour que nous l'aimions. Et c'est ce qu'il faisait là avec ses deux royaumes, son peuple juif, séparé en deux royaumes. Il leur annonce qu'il va y avoir des jugements, et pour cela, il utilise souvent des non-croyants. En l'occurrence, il allait juger ces deux royaumes avec l'empire assyrien. L'Assyrie, dont la capitale était Ninive, aujourd'hui les plaines de Ninive, c'est Mossoul. C'est là qu'il se passe des choses terribles, à croire qu'il y a des puissances démoniaques qui continuent d'inspirer les personnes qui vivent dans ces lieux géographiques. C'est un autre sujet. Mais les Assyriens étaient connus pour leur incroyable cruauté. Et on en a parlé, ce sont eux qui ont inventé le supplice de la croix, ce sont eux qui ont été repris par les Romains et appliqués à Jésus-Christ. Mais ces Syriens, ils étaient une menace terrible, et c'est eux qui ont emmené en déportation le royaume du Nord. Ils ont attaqué aussi le royaume du Sud, mais on pense que les prophéties de Michée ont fait en sorte que le roi Ézéchias a conduit des réformes et que ça a donné un sursis au royaume du sud de Juda, avec Jérusalem pour capitale. La ville a été menacée, mais il y a eu un miracle. 185 000 soldats sont morts dans la nuit de façon miraculeuse pour ceux qui étaient assiégés. Et si le royaume du Nord est parti en captivité en 722 avant Jésus-Christ, ce n'est qu'en 586 que le royaume du Sud a été déporté. Et là, c'est intéressant parce que les Assyriens ont été remplacés par les Babyloniens. L'histoire de l'humanité, il y a des successions de grands empires qui sont repris dans les prophéties, notamment de Daniel. Mais les Assyriens ont été remplacés par les Babyloniens avec le roi Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, comme on dit suivant les versions, ce roi dont il est question dans le prophète Daniel. Et là, le prophète Michée annonçait dans le début de, on a vu ça, qu'il y avait des menaces qui allaient, dont le but était de faire revenir les Juifs à Dieu, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Donc la logique de Dieu, c'est de laisser plus avant les menaces passer. Et là, on a comme toujours dans les prophéties, ce sont des hommes qui reçoivent des visions, et ces visions, elles peuvent être à plusieurs niveaux, un peu comme quand vous faites une randonnée, vous voyez la première colline et puis vous voyez la deuxième colline, et tout au loin vous voyez le mont Gélas et vous avez l'impression qu'en fait il est pas loin, mais plus vous approchez plus ça s'éloigne, vous avez vu des collines. Et de la même façon, les prophéties, il y a une réalisation immédiate pratiquement dans les quelques mois qui suivent la prophétie. Il y a un accomplissement qui se passe plusieurs siècles plus tard, peut-être. Et puis, il y a un accomplissement à la fin des temps, un accomplissement ultime. Et on a déjà, si vous voulez voir ça, vous pouvez aller écouter les messages précédents. Mais là, on arrive à après la promesse d'un Messie qui allait naître à Bethléem Ephrata, à chaque fois le prophète déclare, fait des déclarations en disant « Écoutez, vous, tous les peuples, ou écoutez, vous, mon peuple. » On a vu ça au premier chapitre, verset 2. « Écoutez, vous, tous les peuples. » On a vu ça au chapitre 3. « Écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël. » Là, il leur reprochait de connaître le droit, mais de ne pas appliquer, de prendre des prophètes qui leur racontaient ce qu'ils voulaient entendre. Et puis là, il nous dit au chapitre 6 qu'on va lire, « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. » À chaque fois, c'est des façons pour lui d'attirer notre attention. Lorsque la Bible nous dit « Écoutez », on devrait prêter attention à ce qui est dit et non pas dire « Bof ». Encore un texte ancien qui n'a aucun rapport avec ma vie aujourd'hui. Non, si Dieu dit, c'est vrai qu'à l'époque, il s'adressait à son peuple d'Israël, mais à travers eux, il s'adresse à son peuple aujourd'hui. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. On va lire ensemble. Et écoutons, prêtons attention. Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solide fondation de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. » Et là, c'est la réponse du peuple. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile ? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché ? » Réponse, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » L'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite ? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. On respecte les coutumes d'Omri et toute la magie, la manière d'agir de la famille d'Achab, vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction, je ferai de tes habitants un sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. » Un plaidoyer de Dieu. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois que Dieu commence cette phrase en disant « Écoutez-moi, écoutez-vous tous les peuples », il annonce des menaces, il annonce des punitions qui peuvent et qui vont se passer, mais en même temps, à chaque fois, il a, parce que c'est sa nature, il ne veut pas punir le méchant, il veut que tous vivent, il a toujours des mots d'encouragement. Alors, on l'a vu dans les deux premiers cas, on verra au chapitre 7 qu'il va faire passer son peuple du malheur à l'espérance. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose qui n'est pas très réjouissant quelque part, mais qui est rassérénant dans le sens où ça nous interpelle et ça doit nous remettre en question. Ça doit nous poser des questions vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de notre façon de vivre. Et là, comme souvent, Dieu fait appel à l'imagerie d'un tribunal. Et là, il nous dit de bien prêter attention à ce qui se parle. Dieu parle, c'est important. Et il prend à témoin des témoins solides qui peuvent nous surprendre parce que ce sont les montagnes et les collines. La bon aspect de ces témoins, c'est qu'ils ne sont pas facilement influencés. Ils ne votent pas un dimanche pour tel candidat et le dimanche suivant pour un autre. Ce n'est pas une prophétie, mais ils ne sont pas sensibles aux sondages. Ils ne sont pas sensibles aux discours des uns et des autres. Les montagnes et les collines sont solides. Ce sont les solides fondations de la terre. Écoutez le procès de l'Éternel, verset 2, « Montagne et vous, solide fondation de la terre. » En effet, l'Éternel a un problème avec son peuple. Il a un procès. Il fait un procès. Donc il utilise cette imagerie pour montrer la solennité de l'accusation et comment il veut en fait instruire un jugement contre Israël même. C'est un procédé qui est utilisé plusieurs fois, notamment chez les prophètes, de dire que Dieu est le juge, et en fait c'est Dieu qui va nous juger, mais il peut être aussi le procureur, le témoin à charge. Là il a des témoins qui vont assister à ce procès, ce sont les montagnes et les collines. Et c'est vrai qu'en même temps, on sait que c'est sur le mont Sinaï que les 10 commandements ont été donnés au peuple juif par l'intermédiaire d'anges et de Moïse lui-même. Donc il interpelle les montagnes. Et il commence, il leur demande « Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire ?» pour que vous ne me suiviez pas. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. C'est un peu comme s'il leur dit, vous ne m'obéissez pas, ce qui revient à dire que vous ne m'aimez pas. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous comportiez de cette façon? Est-ce que je vous ai maltraité pour que vous, à votre tour, vous ne me traitiez pas correctement? Est-ce que je vous ai lassé en répétant des listes de commandements? Répondez-moi. Et Dieu veut me demander aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne m'obéisses pas plus dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu laisses des péchés avoir la domination sur ta volonté par moment? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai fatigué? Qu'est-ce que j'ai fait pour te fatiguer? Ils nous posent tous la même question. On sait que le même Dieu, en la personne de Jésus-Christ, allait dire dans Matthieu, mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Suivre Dieu comme il veut qu'on le suive, ça ne doit pas être quelque chose d'épuisant, quelque chose de difficile à faire. Au contraire, c'est quelque chose qui est libérateur, c'est quelque chose doit être plein de joie. Si votre foi vous conduit à penser que c'est difficile de suivre Dieu, si vous trouvez que votre fardeau est lourd et que le joug de Dieu n'est pas aisé, c'est que le joug que vous portez et que le fardeau que vous soutenez ne vient pas de lui. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Et puis, il va leur montrer, et il veut nous faire penser à tous les bienfaits qu'il nous donne, tous les bienfaits qu'il nous accorde. Et il leur rappelle d'abord qu'il les a libérés de l'esclavage. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte et je te délivrais de la maison d'esclavage. Pour le chrétien, celui qui est venu à Christ en le considérant, en le déclarant comme son maître et en le laissant devenir ainsi son sauveur, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Lorsque nous péchons, c'est parce que nous décidons, nous ne sommes plus forcés de pécher. C'est un peu comme pour prendre l'image d'un animal domestique, un chien qui serait enchaîné, qui serait dans sa niche avec une grosse chaîne et qui ne pourrait pas bouger. Un jour, quelqu'un vient et lui coupe la chaîne. Le chien est libre. Il peut aller où bon lui semble. S'il aime ses maîtres, il restera par là. Mais s'il est dans son esprit, il reste esclave. Il peut toujours rester dans sa niche. Alors c'est peut-être la force de l'habitude, mais de la même façon, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. C'est un thème qui est souvent abordé dans l'Ancien Testament. Je vous ai libérés, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai libérés de la maison d'esclavage. Ils étaient prisonniers, esclaves des pharaons qui leur faisaient construire des monuments glorieux pour les pharaons et l'Égypte qu'on visite encore aujourd'hui, les pyramides et tout ce qui s'ensuit, mais les a libérés de ça. Ils ont franchi la mer des joncs par un miracle, un grand miracle. Et ils ont pu se diriger vers la terre promise. On sait que ça aurait pu leur prendre 11 jours, ça leur a pris 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont tourné en rond toujours esclaves et ne faisant pas confiance à Dieu pour cette libération. Dans le Nouveau Testament, le livre de Romains notamment nous parle du fait que nous ne sommes plus esclaves du péché. Dieu a fait un miracle par la mort de Jésus-Christ à la croix qui nous permet de quitter l'esclavage du péché. Alors on peut se libérer vraiment du péché et ou bien être toujours sous son influence, mais on ne peut pas reprocher à Dieu de nous avoir coupé ses chaînes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire « Dieu, j'aurais préféré que tu me laisses esclave de tous mes péchés. » C'est pour ça qu'il prend des points qui sont évidents, il veut montrer qu'en fait ils n'ont aucune raison de de ne pas suivre Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage. Et deuxièmement, je t'ai donné des guides, des personnes pour te diriger. Il envoyait devant eux Moïse, Aaron et Myriam. Moïse, Aaron et Myriam, c'était deux frères et une sœur d'une même famille. On connaît même le nom de leurs parents, c'était Amram et Jochébed. Et c'est Moïse qui a guidé le peuple. On sait que Aaron et Myriam ont causé des problèmes. C'est la seule fois où Aaron est cité par les prophètes comme étant quelqu'un qui a aidé à la délivrance d'Israël. Donc il les a libérés de l'esclavage, il les a guidés. Aujourd'hui, nous avons un guide, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur qui vient à nos côtés pour nous diriger. Et puis, il leur dit, « Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. » Ça, c'est une allusion à un épisode que l'on trouve décrit dans le livre des Nombres, où un roi avait demandé à quelqu'un qui était connu pour être un prophète, pas nécessairement un prophète de Dieu, mais un prophète qui avait certains pouvoirs, de maudire le peuple d'Israël. Il avait simplement un problème, c'est que chaque fois qu'il essayait de dire une malédiction, pour nous prononcer une malédiction, c'était transformé en bénédiction. Il n'y arrivait pas. Et le roi de Moab, Balak, essayait de l'encourager en lui promettant monts et merveilles, de l'argent, des positions, mais il n'y arrivait pas. Finalement, c'est en ayant recours à un stratagème, en envoyant des jeunes filles de Moab auprès des jeunes juifs, qui les a conduits à la débauche et à la punition de Dieu. Mais Dieu transformait les malédictions en bénédictions. Si vous êtes chrétien, personne ne peut vous maudire. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vivent dans la peur des sorts qui leur sont jetés. La semaine dernière, on a dit que Dieu ne cautionne pas du tout, qu'il interdit même l'usage ou le recours aux sciences occultes, aux horoscopes, à la cartomancie, à la chiromancie, lire l'avenir, toutes ces choses-là. C'est ne pas faire confiance à Dieu, c'est un grave péché devant l'Éternel. Mais c'est, de toute évidence, c'est quelque chose qui peut nous paralyser. Et aussi penser qu'on ne peut pas faire certaines choses ou qu'aujourd'hui ça va aller mieux parce qu'on est né à un moment où telle étoile se trouvait dans tel coin du ciel, c'est une façon pour l'ennemi, pour Satan, pour le diable, de nous paralyser avec des choses qui n'ont pas lieu de nous paralyser. Il n'y a pas de déterminisme avec Jésus-Christ. On est libre, tout est possible avec lui. Il n'y a rien, notre passé, les malédictions qu'on a pu recevoir, toutes ces choses n'ont aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu qui est au bénéfice du sacrifice de Christ. Et c'est très important. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui vous concerne, mais sachez que ça peut être quelque chose de terriblement libérateur pour des tas de personnes à la surface de la terre. Ici même, on a plein de voyants et de guérisseurs. Dans d'autres pays où la voyance, les choses magiques ont beaucoup d'influence, sachez que Dieu vous protège. Si quelqu'un vous maudit, dites-lui, Dieu t'aime et je vais prier pour toi. Vous verrez que ça va les rendre furieux, parce que Satan n'aime pas être ainsi repris. Il les avait fait libérer, il leur avait donné une direction, des gens pour les aider à le diriger, et il les protégeait des malédictions. Et puis il dit, rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal. On n'a pas le temps d'aller voir les passages, mais sachez que c'est la période où ils ont franchi le Jourdain. Ils ont d'abord été libérés d'Égypte, ils ont franchi la mer des Joncs. Là, Dieu les a amenés devant le Jourdain qui était en crue, mais là aussi il y a eu un miracle. Et ils ont pu traverser à pied sec en faisant preuve de foi. Le plus difficile, ça a été le premier pas dans l'eau du fleuve qui était en inondation. Et ils ont été invités à faire un mémorial, c'est-à-dire mettre des pierres pour un monument pour se rappeler de ce grand miracle. Dieu est intervenu dans leur vie avec des miracles. Dieu intervient dans nos vies avec des choses formidables, des miracles. Et tout ça, c'est fait pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Ça, c'est la traduction de la seconde 21, qui perd des fois en précision au niveau des mots originaux. C'est en fait les actes de justice, les actes justes, les choses justes. Et c'est intéressant de réaliser qu'en fait, les actes justes de Dieu, c'est les actes qui nous font du bien. La justice de Dieu, là, elle a l'air d'être dirigée contre son peuple. En fait, la justice de Dieu, elle est bienveillante à notre égard. Ça, c'est tout le problème de comment un Dieu juste peut-il tolérer des pécheurs. Et je le répète souvent, mais il y a trois notions. Il y a la justice, la miséricorde et la grâce. La justice, c'est récolter ce qu'on mérite. Je me suis garé dans un endroit interdit au stationnement. Je reviens, j'ai un papillon, une amende à payer. C'est la justice. J'ai récolté ce que mon comportement méritait. Il y a la miséricorde. Ça, c'est lorsqu'on revient et qu'il y a l'agent de police ou l'agent contractuel qui est prêt à vous sortir le carnet qui dit, et vous lui dites, oh, j'étais juste parti déposer mon fils à la crèche, voilà. Et il dit, bon, ça va cette fois-ci. Ça, c'est la miséricorde, c'est ne pas obtenir ce qu'on mérite. Et puis, au-delà de ça, il y a encore mieux, il y a la grâce. La grâce, c'est non seulement ne pas obtenir l'amende, mais c'est obtenir quelque chose d'autre qu'on ne mérite pas. C'est un peu comme si le contractuel disait, écoutez, aujourd'hui, c'est mon jour de grâce. Non seulement je vous mets pas d'amende, mais je vous donne une bouteille de champagne. Waouh ! C'est inimaginable dans notre logique, mais la logique de Dieu, c'est la grâce. C'est recevoir un bienfait qu'on ne mérite pas. Et Dieu nous dit, c'est ce que je veux faire avec vous. Je vous ai fait sortir, je vous ai libéré, je vous ai guidé, je vous ai protégé, j'ai fait des miracles, c'est pour que vous reconnaissiez que je suis un Dieu plein de grâce. Et on va voir la réponse d'Israël, la réponse des hommes, quelque part, elle est à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'ils disent ? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes ? Un holocauste, c'était un sacrifice où l'animal offert en sacrifice était complètement brûlé, consumé. Il y avait d'autres genres de sacrifices, des sacrifices de communion, où on partageait l'animal, on en brûlait une partie pour Dieu, c'est comme si Dieu partageait le repas avec nous, mais de l'autre côté, on gardait une partie de l'animal pour notre propre consommation. Mais là, c'était le sacrifice ultime, c'est-à-dire j'offre un sacrifice et j'ai aucun bénéfice. Et il disait, est-ce que je dois faire des holocaustes comme ça, avec des veaux d'un an? On pouvait faire des sacrifices avec des veaux tout petits, mais les veaux d'un an, c'était déjà des beaux veaux qui valaient plus cher que des plus jeunes veaux. Un veau d'un an, c'était quelque chose qui commençait à valoir beaucoup d'argent. Et puis, verset 7, l'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile ? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché ? Là, ils font peut-être allusion dans leur pensée au sacrifice que le roi Salomon avait offert lors de la dédicace du temple, où il y avait des milliers de béliers qui étaient offerts en sacrifice, où il y avait des quantités impressionnantes d'huile. Ça, c'était les grandes richesses, la viande, l'huile, qui non seulement servait à la cuisine, mais qui servait aussi à l'entretien. C'était le savon de l'époque, c'était le médicament de l'époque, c'était un combustible pour les lampes. Est-ce que je dois faire des... Est-ce que pour me mettre bien avec toi, il faut que je dépense des choses énormes ? Et c'est presque sous-entendu un reproche à Dieu. Tu es tellement exigeant. Il va falloir sans doute que je vide mon compte en banque, hein, pour que tu me pardonnes. Il va falloir que je vende ma maison, que j'aille vivre dans la rue. Ça, on a le sentiment qu'ils n'ont pas confiance en Dieu alors que Dieu a tout fait pour eux. Puis ils disent même, donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché ? C'est intéressant cette expression. On pense bien sûr à Abraham, à qui Dieu avait demandé de sacrifier son propre fils, Isaac. Et on sait que Abraham s'était résolu à cette idée en disant que comme Dieu lui avait promis une descendance multiple et que cette descendance, elle devait passer par Isaac, il était convaincu parce qu'il avait de la foi en Dieu que Dieu allait faire ressusciter Isaac d'une façon ou d'une autre. Il s'est trouvé qu'au dernier moment, alors que Abraham allait sacrifier son fils par un coup de couteau, sur l'autel qu'il avait installé avec lui-même, avec Isaac, un ange a retenu le couteau, la main d'Abraham, et il est dit que Dieu se pourvoirait lui-même un sacrifice. Et ça, c'est une prophétie du sacrifice de Jésus-Christ. Et là, les gens étaient prêts ou envisageaient, mais dans le sens où dire « Dieu, tu es un Dieu tellement exigeant, tu voudrais que je te donne mon fils aîné, mon premier enfant, pour mon propre péché ?» En fait, on sait que Dieu va aller au-delà de ça. Dieu va offrir son propre Fils pour notre péché. Alléluia. Donc il leur montre vraiment qu'ils sont prêts à... Ils rouspètent. Et là, on voit qu'ils font quelque chose qu'on a tendance à faire. Ils pensent qu'ils peuvent apaiser la colère de Dieu avec des rituels religieux. Aujourd'hui encore, on voit des... Alors ça peut accompagner les prières, c'est pas nécessairement mauvais, mais on a l'impression que si on fait des sacrifices, Dieu va être obligé de nous bénir en retour. Et on oppose, ce faisant, le rituel à la réalité. Le rituel, c'est quelque chose d'extérieur. Dieu ne s'intéresse pas tant que ça à l'extérieur. Ce qui l'intéresse, c'est l'intérieur de nous, notre cœur, nos sentiments. Le problème, c'est que l'homme ne voit pas la réalité intérieure de nos cœurs. Et on voit l'extérieur, le rituel, on voit la... Oh, c'est quelqu'un de... Quand il parle à Dieu, qu'est-ce qu'il parle bien ? Oh Seigneur ! Oh ! Je suis indigne ! Ou alors, ils font des tas de cérémonies, il y a de l'encens, il y a de l'or, des instruments, il y a des grandes robes, il y a des grands gestes. Mais ce qui compte, c'est la réalité du cœur. C'est un peu comme ce publicain et ce pharisien. C'est pas la parabole du pharisien et du républicain, non, c'est celle du pharisien et du publicain. Dans Luc 18, là on connaît l'histoire sans doute, sinon je la rappelle, c'était un pharisien, donc c'était un chef religieux ou quelqu'un de très religieux en Israël, qui se vantait de ses bonnes œuvres et qui regardait un homme pauvre qui, lui, se frappait le cœur en disant « Je ne suis pas digne de ta miséricorde, je ne suis pas digne de toi. » Et le pharisien se disait « Merci Seigneur que je ne suis pas comme cet être vil qui ne mérite pas ton amour. » Alors qu'au contraire, l'autre dépendait de la miséricorde de Dieu pour être accepté, pour être sauvé. Le rituel et la réalité. J'ai déjà partagé cette histoire, mais quand je suis arrivé à Nice, j'avais fait la connaissance d'un chrétien plein de grâce et d'amour. Et il m'invitait des fois à aller avec lui rendre visite à des personnes qui étaient dans l'église, que je ne connaissais pas encore très bien parce que j'avais été appelé à servir dans une église libre pendant quelques mois. Et on allait voir ensemble, rendre visite à des paroissiens ou des gens qui avaient fréquenté plus ou moins l'église. Et je me souviendrai toujours, il y avait cet homme qui lui disait « Oh !» Si tu savais, tous les dimanches, je pense à venir à l'église, mais je suis tellement pris, j'ai tellement de soucis. Les enfants, ma femme, l'entreprise, les banquiers, j'y arrive pas. Oh là là. Et cet ami lui disait, mais Jean-Pierre, ce que Dieu y veut, c'est pas tes rituels, c'est pas que tu viennes tous les dimanches à l'église. Ce que Dieu y veut, c'est ton cœur. C'était très simple et en même temps très vrai et très beau. Dieu ne cherche pas à ce qu'on l'impressionne avec nos rituels, il veut notre cœur, il veut la réalité de nos sentiments, de notre affection. Et on l'a chanté ce matin, ce verset 8 qui est bien connu. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous rappelle que suivre Dieu, marcher avec lui, c'est pas compliqué. C'est simple, en quelque sorte. Ce que l'Éternel demande ou exige, c'est pas de faire brûler des cierges, c'est pas de faire un pèlerinage à tel endroit, c'est pas de donner des offrandes incroyables. Non, c'est simplement trois choses. Pratiquer le droit ou se comporter de façon juste. On verra que plus loin, il va donner des exemples d'injustice. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin dans notre société pour trouver des injustices. Le monde est rempli d'injustices. Est-ce que nous sommes justes? C'est qu'on aime la bonté. Pas seulement qu'on la pratique, mais qu'on aime ça. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la bonté. Ils trouvent que la bonté, c'est pour les faibles. Qu'avec la bonté, on n'arrive à rien. Qu'il faut d'abord penser à soi et écraser les autres. Et puis aussi, que tu marches humblement. Marcher humblement, avec humilité, avec ton Dieu. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça nous fait penser un peu à Jésus qui, dans Jean 6, 28, disait « Que devons-nous ?» plutôt répondant à une question qui disait « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et il disait « C'est l'œuvre de Dieu que de croire en lui et en celui qu'il a envoyé. » Ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre cœur, c'est pas tout le travail qu'on peut faire. L'ennemi de nos âmes, Satan, qui encore une fois est un personnage réel, ce n'est pas une fiction de l'imagination d'un auteur de bande dessinée ou de film de dessin animé. C'est de nous convaincre que de suivre Dieu, c'est trop compliqué pour nous. On a souvent le sentiment, beaucoup de personnes vous diront, non, je ne viens pas à l'église, je sais que Dieu, mais je suis encore trop plein de péchés, trop sale pour venir à lui. Le bon point, c'est de reconnaître notre saleté morale, nos pensées perverses peut-être, notre égoïsme, toutes ces choses, mais le fait qu'il nous bloque en disant, tu n'es pas assez bien pour t'approcher de Dieu, c'est un mensonge. Dieu nous dit, venez à moi et je vais vous nettoyer. Venez et vous allez être transformés. Alors je disais, marcher avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas à suivre des rituels compliqués. La religion aime bien les rituels et les ordres et les... Ça devient très compliqué. C'est pas compliqué et je vais vous surprendre parce que je vais vous dire en même temps c'est impossible. C'est impossible si on n'est pas sauvé. Pour mettre en pratique le droit, c'est-à-dire faire la justice, c'est pas possible si on n'a pas été déclaré juste par Dieu, par notre foi en son sacrifice, en Jésus-Christ. On peut essayer, mais il faut d'abord qu'on soit justifié, déclaré juste. Le salut de Dieu comporte trois aspects. Il y a une libération du péché, il y a une libération de sa puissance, mais il y a aussi une transformation qui fait que, éventuellement, en fin de compte, on sera en sa présence sans qu'il y ait de péché complètement. On est d'abord délivré de la punition, de la pénalité du péché quand on vient à Christ. On ne va pas subir la punition qui nous revient parce que nous avons transféré notre confiance en Christ qui a pris ma punition à ma place. Je mérite la mort, mais Jésus a pris la mort à ma place. On est libéré donc de la pénalité, mais on est aussi libéré de la puissance du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Le premier aspect, c'est la justification. On est déclaré juste. Même si on a l'impression qu'on n'est pas juste, encore, on est déclaré juste et ça marche. C'est officiel. C'est un peu comme si on vous donne un nouveau passeport. Quand j'étais aux États-Unis, j'aurais pu demander la nationalité américaine. On me l'aurait sans doute accordé si j'avais fait la demande. J'aurais eu un passeport du jour au lendemain, avec un tampon. Ça y est, je suis un citoyen américain. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à penser comme un Français, à penser que le boire du coca avec du camembert, c'est dégueulasse. Ça va prendre du temps avant que je m'américanise, que je me sanctifie suivant la... entre guillemets, bien entendu, que j'adopte un comportement digne de ma nouvelle nationalité. Et puis La phase ultime, c'est la glorification. On est libéré de la présence du péché. Ah ! Ah ! Il n'y en a pas qui aspirent à être libérés de la présence du péché, non seulement tout autour de nous, mais dans mon propre cœur. Ah ! Ça ferait tellement de bien. Puis avoir à lutter contre le péché. Alléluia ! Mettre en pratique le droit, il faut avoir reçu cette justification, avoir été déclaré juste par Dieu. Pour aimer la miséricorde, la bonté, c'est impossible si on n'a pas fait personnellement l'expérience de cette miséricorde, cet amour, cette bonté, cette grâce de Dieu. Des passages comme Éphésiens 2:4 ou Tite 3:5 qui en parlent. Et pour marcher humblement avec notre Dieu, c'est pas possible si on ne s'est pas incliné humblement devant lui en reconnaissant nos péchés et avoir reçu sa promesse de pardon. Donc, Michée 6:8, ça n'est pas l'évangile, c'est pas un texte qui nous explique comment être sauvé, parce qu'on doit d'abord être sauvé pour pouvoir appliquer ce qui nous est demandé. En même temps, une fois qu'on est venu à Christ, et c'est très simple, marcher avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ne laissez pas les autres, ne laissez pas Satan vous convaincre ou essayer de vous convaincre du contraire. Dieu ne peut sauver que des gens perdus. Les gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont coupables. Si on se voir quand on n'est pas sauvé tel que Dieu nous voit, alors on va par la foi pouvoir devenir tel qu'il veut que nous soyons. Mais ce verset, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. toutes nos activités, nos paroles religieuses ne veulent rien dire pour Dieu si nous ne lui montrons pas un caractère qui a été transformé par le Saint-Esprit lorsque nous nous soumettons à lui. Mais encore une fois, rien n'est compliqué. Venir à Christ, c'est de reconnaître simplement « Je suis un pécheur, j'ai besoin de pardon. Je crois que Jésus-Christ est venu mourir pour mes péchés et je le reçois dans mon cœur. » Et après, on peut marcher comme Dieu le veut, en pratiquant la justice, en aimant la bonté et en marchant humblement. Marcher humblement, c'est de suivre quelqu'un. Ce n'est pas de vouloir devancer celui qu'on devrait suivre. Et puis le reste des versets, « L'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. » Écoutez la menace, encore une fois, et celui qui l'envoie. Et puis là, il fait la liste de certaines pratiques injustes. Dans la maison du méchant, il y avait des trésors mal acquis, des choses qui avaient été volées, dérobées. Il y avait aussi des mesures trop petites et maudites. Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? Pour tricher, les commerçants, c'est facile, ils peuvent utiliser des balances qui indiquent plus de poids que ce qu'ils nous vendent, par exemple, pour nous permettre de nous charger davantage, de nous donner un prix davantage, de plus grand que la réalité. Normalement, lorsque vous faites des courses dans les supermarchés, vous pesez vos légumes, vous devriez regarder et vérifier qu'il y a une vignette de couleur verte qui indique que l'appareil a été vérifié. Il est possible que cette étiquette ait disparu et que le poids soit majoré. Je vise personne, mais j'ai lu ça en regardant sur Internet les problèmes avec les fausses balances. Et les riches sont pleins de violence. Les riches sont devenus riches en profitant des pauvres. Les habitants dans la ville profèrent le mensonge. Leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Et puis, verset 13, il annonce un jugement d'abord lent. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu vas peut-être manger, mais ça ne va pas satisfaire ta faim. Tu vas peut-être épargner, mais ce que tu as épargné, ce que tu as mis de côté va être gaspillé, détruit. Ce que tu mets de côté, ça va être livré à l'épée, des ennemis vont t'envahir. Peut-être que tu vas semer tes champs, mais tu n'auras pas le temps de faire tes récoltes. Tu récolteras tes olives, tu les presseras pour en faire de l'huile, mais tu n'auras pas la possibilité d'en profiter. Tu n'utiliseras pas l'huile ainsi obtenue après beaucoup de travail comme un parfum. Et tu pourras peut-être aussi ramasser les grappes de la vigne, les écraser, faire couler du jus de raisin, mais ce vin, tu n'en profiteras pas. Et nous aussi, on peut faire des tas d'efforts, mais si Dieu décide que ce qui compte, notre première relation avec nous, il peut faire que nous ne bénéficions pas du fruit de notre travail. On pense à ce riche agriculteur qui avait accumulé des récoltes abondantes et qui s'était fait construire une grange encore plus grande et qui se disait « De quoi ai-je besoin? Je suis riche, je suis bien. » Et la parole dit « Imbécile, tu ne sais pas que peut-être demain tu seras mort, ce qui lui était arrivé. » Donc il y a cet jugement qui fait qu'on se donne beaucoup de mal mais on n'en voit pas le fruit. Ça peut interpeller certains d'entre nous, je ne suis pas sûr qu'on ait des accros au boulot, mais il y a dans certains milieux, il y a des gens qui passent toute leur vie à travailler sans égard pour leur famille, pour leurs enfants qui grandissent sans eux. Et puis, cette idée qu'un jour je profiterai des fruits de mon travail, il n'y a aucune garantie que la crise cardiaque ne les guette pas juste avant qu'ils prennent leur retraite. Alors, ne me citez pas là-dessus, c'est juste un exemple pour dire qu'il peut y avoir cette punition qui fait que on ne voit pas venir, mais Dieu nous dit, écoutez, si vous ne marchez pas avec moi, vous allez en subir des conséquences. Et puis, il y a un deuxième jugement plus brutal, ça va être par Babylone, comme Michée le disait dans le chapitre 4, verset 10, ce qui est une remarquable prédiction, prophétie, parce que Babylone n'était pas encore le premier état, la première puissance mondiale. Et là, il dit, on respecte les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la famille d'Achab. C'était deux des pires rois en Israël. Vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Là, ça va être brutal. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Dieu veut nous mettre en garde. Dieu veut nous parler, il veut que nous l'écoutions. Il nous dit, venez à moi, soyez sauvés et vivez simplement la vie que j'ai pour vous, qui est une vie pleine de fruits, qui est une vie pleine de paix, de joie, d'abondance. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces prophéties qui l'authentifient comme étant la vérité, qui sont pour ainsi dire le filigrane de l'argent comptant de ta parole, Seigneur. Et parce qu'elle est vraie, Seigneur, et qu'elle nous annonce de bonnes choses, que de plaire à Dieu, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça consiste à venir à Jésus-Christ, à lui demander pardon pour nos péchés, recevoir son pardon, et ensuite vivre en le suivant. Seigneur, on te demande pardon parce que souvent nous compliquons les choses. Ou nous voulons, si nous sommes chrétiens depuis plusieurs années, faire croire à ceux qui sont en recherche qu'en fait, nous avons bien progressé depuis l'état où ils en sont, Seigneur, et que ce n'est pas donné pour eux, Seigneur. Pardonne-nous si nous ne donnons jamais cette impression, Seigneur. Je connais les personnes qui viennent, qui n'osent pas prier parce que, en public, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, Seigneur, ne nous donne jamais l'idée que nous sommes plus proches de toi parce que nous avons l'habitude de prier en public. Ceux qui ont du mal à trouver les différents livres dans la Bible, Seigneur, ne nous donne jamais l'idée que parce que nous avons eu le privilège de te connaître depuis quelque temps, nous savons où se trouvent les passages, Seigneur. Pardonne-nous pour tout ce qui peut être orgueil dans nos vies de croyants, Seigneur, dans nos vies de chrétiens. Et aide-nous, Seigneur, à partager avec les autres la simplicité du plan du salut, Seigneur. Sois glorifié aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, dans notre Église. Nous te remettons les églises de cette ville, qu'elles annoncent elles aussi la simplicité du salut avec puissance et force, Seigneur, et qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent à toi, Seigneur. Pendant que nous sommes dans le recueillement, si certains d'entre vous veulent faire cette première démarche d'être justifiés par Jésus-Christ, je vous invite à prier une simple prière dans le silence de vos cœurs. Vous pouvez simplement dire, Seigneur, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je regrette mes péchés passés. Je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour tous ces péchés passés, mais aussi ceux de maintenant et ceux du futur, que tu es ressuscité d'entre les morts. Preuve de ta victoire sur le péché. Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur. Je t'invite à venir dans ma vie. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter mon salut. C'est un cadeau que tu m'offres. Je mets toute ma confiance en toi seulement pour la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi en pratiquant la justice, en aimant la bonté et en vivant dans l'humilité, Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci d'entendre ma prière et d'y répondre, Seigneur. Merci pour le don de la vie éternelle. Pendant qu'on est encore dans le recueillement, si certains ont prié cette prière, je vous demanderai simplement de me l'indiquer en levant une main, ou deux mains. Ou... Sachez que c'est une Alléluia, merci Seigneur, pour les personnes dont tu touches le cœur. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu nous aimes. Tu as envoyé ton propre Fils mourir pour nos péchés, Seigneur. Tes exigences sont simples une fois que nous sommes venus à toi, Seigneur. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à te donner notre cœur, Seigneur. Bénis cette personne qui a signifié qu'elle te recevait dans son cœur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.